C'est quoi ta bûche là avec toutes les bandes de toutes les couleurs?
J'ai fait un sondage pour choisir le parfum de la bûche. Et alors, il y en a deux qui veulent au chocolat, trois qui veulent à la pistache, un à la vanille, quatre au caramel.
T'as voulu faire plaisir à tout le monde, je vois.
Le désir le plus profond n'est pas le plus facile à dire. Entre quelles mains j'ai envie de le mettre, dans quelle oreille j'ai envie de confier ce que je vis, ce que j'espère, ce que j'attends. Et si je l'écris pour que vaille, ça atterrisse bien quelque part, notre hiver à nous est peut-être aussi celui des autres parfois. Un frisson de joie, un frisson de doute, un frisson d'espoir, ça se raconte, pourvu qu'on le fasse avec un peu d'humour, pour qu'on en parle, parce que je ne suis pas sûre qu'on en parle assez. Chers auditeuristes, aujourd'hui je m'emporte un peu, peut-être parce que l'on est vendredi, peut-être parce qu'on n'a jamais été si proche de ces fêtes de fin d'année 2023, enfin aussi et surtout parce que je vais être en bonne compagnie aujourd'hui, avec moi Nora Deliot, autrice de l'ouvrage « Des paillettes dans l'éprouvette », et Capucine Loutelier, réflexologue à Laval, toutes deux vont partager un peu avec nous leur parcours PMA et tout ce qu'il implique. Il est bon de comprendre que nous le vivions, nous d'ailleurs, ce parcours, parce que se tourner vers l'autre, qui pourrait être proche, nous paraît essentiel dans cette émission. Mes deux invités vont m'accompagner tout au long de cette agité du local, car vous savez, maintenant, le vendredi, c'est le grand entretien. On prend le temps, on échange et on le fait bien. À la fin de cette émission, on aura un tout petit agenda culturel, mais agenda quand même, on y tient. Avant ça, je vous propose quand même de regarder l'écrotitre de votre hebdomadaire Le Haut Anjou, paru aujourd'hui. On commence par un moment très émouvant avec l'ancien maire de Saint-Martin-du-Bois, Jean Gabillard. Après avoir contacté le Haut-Anjou pour retrouver la trace d'un clown dont il avait été question dans un article en 2018, Jean Gabillard était passionné par le travail du cuir et du bois et voulait transmettre une de ses créations, une paire de chaussures de clown particulièrement impressionnante. Ce qui a pu se faire car le clown retrouvé par le Haut-Anjou n'est autre qu'Antonin Rousseau qui a été touché et ému de ce moment. Des nouvelles de l'association Château 4 à Château-Gontier qui était en difficulté et lançait un appel aux dons en novembre. Un mois plus tard, la générosité a porté ses fruits et va pouvoir payer le vétérinaire qui lui avait fait crédit. Jacqueline Carchon, la présidente de l'association, est très heureuse de pouvoir écarter le danger ressenti en novembre et remercie la générosité des particuliers en cette période de fête, ainsi qu'une entreprise qui a été particulièrement généreuse avec un don de 1500 euros. Et pour terminer, une animation insolite à la piscine de Château-Gontier, le Père Noël offrait des baptêmes de plongée dimanche 17 décembre au club de plongée sous-marine HSMA. Le club compte une soixantaine de membres et propose ce type d'activité dans le but d'attiser la curiosité et de nouvelles adhésions. Des nouvelles qui donnent le sourire aujourd'hui. Aujourd'hui avec moi en studio, Nora Deliot, vous êtes l'autrice de l'ouvrage « Des paillettes dans l'éprouvette » publié en novembre aux éditions Discus. C'est un récit témoignage de votre parcours PMA et à vos côtés, Capucine Loutelier, vous êtes réflexologue à Laval. Vous avez également suivi un parcours PMA, ce qui vous a amené aujourd'hui à une reconversion professionnelle dans le désir d'accompagner justement des femmes notamment qui vivent aujourd'hui la PMA et donc dans le domaine de la réflexologie, c'est bien ça?
Tout à fait.
La PMA comme procréation médicalement assistée, on peut le rappeler, mais j'ai envie de commencer peut-être très simplement avec vos mots. Qu'est-ce que c'est la PMA?
Eh bien, je dirais un long parcours médical semé d'embûches, avec des hauts, des bas quand même, ouais. Mais dont on garde, pour ma part en tout cas, un bon souvenir maintenant que je suis maman en tout cas. Ouais. Parce que je suis très fière pour ma part d'être passée par là et d'être arrivée, pas à mes fins, mais d'être enfin tombée enceinte et d'être maman. Mais je dirais que c'est quand même un long parcours qu'on découvre au fur et à mesure et qui peut être parfois un peu semé d'embûches.
Et c'est aussi, j'ajouterais aussi que c'est quelque chose de très contraignant dans la vie de tous les jours, de très protocolaire. Donc... ça casse vraiment toute spontanéité. Comme on disait tout à l'heure, la magie du test de grossesse nous est enlevée, mais aussi c'est tellement réglé qu'on n'a pas de, il n'y a pas de place au doute, à l'espoir. Quand on est dedans, c'est vraiment c'est très scientifique, quoi.
Et alors, Nora Deliot, je le disais, vous êtes autrice du livre « Des paillettes dans l'éprouvette », un récit qui témoigne de votre parcours PMA. Le ton du livre est très spontané et écrit avec beaucoup d'humour. J'ai le sentiment que si on ne le vit pas aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose de ce que ça implique pour les personnes concernées et votre livre nous aide à mieux le comprendre. J'ai envie de commencer en citant déjà juste la première page. Je dédicace ce livre à toutes les femmes qui, comme moi, n'auront probablement jamais la surprise de découvrir qu'elles sont tombées enceintes lors d'une soirée bien arrosée, d'une escapade romantique avec leur amoureux ou même un soir de semaine complètement banal après une journée de travail épuisante. À toutes celles pour qui le test de grossesse est un objet qui inspire la tristesse et la frustration plutôt que le bonheur de devenir maman. À tous les hommes qui se retrouvent en PMA et qui aimeraient prendre un peu de la souffrance de leur partenaire pour la soulager. Cette magie à laquelle vous n'avez pas eu droit, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti toutes les deux ? Noura, peut-être ?
Oui, exactement. L'idée, hein, surtout de voir des amis le découvrir via des tests de grossesse et certaines copines l'annoncer à leur conjoint, ça c'était très dur parce qu'on savait que nous, ça ne nous arriverait pas. Donc c'est vrai que ça enlève quand même pas mal de magie.
Tout à fait d'accord, effectivement. C'est, on espère que ça nous arrive. Enfin, pour ma part, ça m'est déjà arrivé d'acheter des tests de grossesse, mais presque pour me conforter ou faire un petit peu comme les autres. Mais en vain, et effectivement, ça nous enlève cette part de surprise et de magie qu'on aimerait vraiment garder, conserver, notamment pour nos proches, quoi.
Et ce que je trouve intéressant et ce qui rend la lecture de votre livre facile, si je peux le dire comme ça, c'est que vous partagez toutes les étapes émotionnelles par lesquelles vous êtes passées, des étapes pas évidentes, mais vous l'avez écrit avec un ton plein d'humour. C'était important ça pour vous ?
Oui, parce que déjà l'objectif de ce livre, c'est de donner de l'espoir. Donc je me suis dit que si je parlais sur un ton grave, ce serait un petit peu moins le cas. C'est aussi parce que je suis comme ça dans la vie, j'aime bien plaisanter, j'aime bien rire de tout, donc si j'écrivais quelque chose, j'avais envie que ce soit fidèle à ce que je suis, donc ça m'est venu en fait assez naturellement.
Et alors, en commençant tout ce processus, et vous l'écrivez dans le livre, on ne parle plus de PMA, mais de Pamela, et plus de FIV, mais de Flavie. Des dons qui allègent peut-être la lourdeur de ce que l'on vit, mais aussi, vous avez découvert tout un lexique propre à la PMA, par exemple les Zozo, les Fofo, les Gigi, et puis j'en passe. C'est en allant sur les réseaux sociaux, à la recherche d'informations sur ce qui vous attendait, à la recherche de témoignages que vous avez découvert tout ce monde-là.
Alors les Zozo, les Fofo, etc. Oui, en effet, ça m'a fait rire au début parce que ça faisait vraiment quelque chose de mignon dans une atmosphère qui n'est absolument pas. J'avoue que ça me faisait rire. En fait, petit à petit, on apprend tous les termes scientifiques qui sont plutôt compliqués. Au début, on est un peu perdu et on découvre aussi notre propre corps. Moi, j'ai découvert des choses que je ne connaissais absolument pas avant, les follicules, etc. J'en avais jamais entendu parler avant. Aller sur les réseaux, ça a été d'abord une volonté de me sentir moins seule, je pense, au-delà d'apprendre des choses. J'avais besoin de voir qu'il y avait d'autres gens dans notre situation, en fait, avant tout.
Moi, c'était plus sur les forums que les réseaux sociaux où j'allais trouver des cas similaires aux miens, en tout cas, ou avoir une relation d'échange, mais de manière totalement neutre, parce qu'on n'a pas forcément, encore une fois, envie d'en parler à ses proches, en tout cas au départ, parce qu'on dit que chaque expérience est très différente et on dit qu'on aura peut-être plus de cas à nous partager sur le protocole qu'on suit à ce moment-là. Donc moi, je me revois dans mon lit sous ma couette, justement, encore une fois, mon conjoint qui dormait, mon mari qui dormait, et moi qui était sur mes forums à essayer de voir les réponses, et ça me rassurait, ou parfois je disais, oh là là, est-ce que ça va marcher ? Je questionnais au fur et à mesure du protocole que je traversais, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont pris ce même traitement ? Est-ce qu'elles ont eu des résultats ? Est-ce que ça, c'est normal comme résultat ?
Parce qu'on a des repères, en fait, en quelque sorte.
Exactement. Parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de poser ces questions-là.
Ouais.
Parce qu'on a nos rendez-vous pour poser des questions. C'est assez timé. Et entre chaque rendez-vous, parfois, on est un peu livré à nous-mêmes. Ou alors, il faut repasser par le secrétariat. Donc, pas forcément le temps pour ça.
Qui est un peu saturé, en plus.
Ouais, exactement. Donc, on essaie de trouver des réponses à nos questions sur ces temps de... sur ces temps morts entre nos rendez-vous et puis des moments de réassurance aussi, quoi.
Et alors, pour revenir au début de ce processus, avant qu'un protocole se mette en place, si on revient à ce moment où vous avez ce désir d'enfant, vous et aussi votre conjoint, c'est un désir commun, au bout de combien de temps vous vous rendez chez un professionnel en ressentant peut-être une difficulté dans le fait de tomber enceinte ?
Alors, pour nous, ça a été assez rapide puisque j'avais une sorte de pressentiment, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ce serait compliqué. Et je suis pas quelqu'un de très patient, voire pas du tout. J'ai toujours besoin d'avoir des réponses rapidement. Donc on n'a pas attendu si longtemps que ça. Nous, au bout de quelques mois déjà, j'ai décidé d'aller consulter mon médecin généraliste J'avais besoin de savoir dans quoi je me lançais et puis s'il y avait de l'espoir, si ça allait durer. Alors ça, j'allais découvrir que nous ne connaissons jamais les réponses à ces questions. Mais j'avais besoin de ça. Donc j'ai, parce que mon conjoint m'a suivi, j'ai vite pris la décision d'en savoir plus.
Et pour ma part, alors j'avais déjà des soucis hormonaux et donc quand on a commencé à, quand on s'est lancé dans ce projet, je suis rapidement allée consulter un gynécologue donc à Laval qui n'était pas spécialisé en PMA et qui m'a rapidement lui réorientée vers Rennes pour être accompagnée sur des protocoles quand même plus spécifiques quoi. Donc effectivement ça a été assez rapide et c'est de là je dirais qu'a commencé ce parcours ce long parcours.
Donc ce parcours c'est un parcours intime mais aussi un combat à deux. Vous évoquez ce manque de soutien, ce besoin de soutien avec ce que vous traversiez. Très peu de votre entourage était au courant. Quel type de soutien est-ce qu'on a besoin à ce moment-là?
Pour les personnes qui y sont confrontées, déjà d'essayer de trouver d'autres personnes qui y sont confrontées. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus rassurant, en fait. C'est d'avoir l'impression de parler à quelqu'un qui s'y connaît et de ne pas avoir... Parce que nos proches, nous, quand on leur a dit, ça ne nous a pas réconforté plus que ça, parce qu'ils n'y connaissaient pas grand-chose. Mmh. Et en fait, on passait plus de temps à expliquer comment ça allait fonctionner, les prochaines étapes, etc., plutôt qu'à être rassurés. Et j'avais l'impression que c'était plutôt eux que je rassurais sur le fait qu'on avançait plutôt que nous. Et c'est assez pesant, ça, en fait, au bout d'un moment.
Ce qui est peut-être important, justement, c'est que l'entourage aussi se renseigne sur ce que vous vivez plutôt que ce soit à vous d'expliquer. Ouais, ça ajoute peut-être quelque chose à ce que vous vivez déjà, de devoir en plus réexpliquer tout ce protocole qui est déjà lourd au quotidien.
C'est ça. Et puis, on est dedans, on est tellement dedans qu'on n'a plus envie d'en parler. Mmh. On a juste envie d'un jour dire qu'on est enceinte et que voilà, toute cette phase-là. Donc, c'est extrêmement réconfortant de parler à des personnes qui y sont confrontées. Et même aujourd'hui, après l'avoir fait, le fait de discuter avec quelqu'un qui est passé par là, c'est super. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire, on sait quoi. Enfin, c'est comme beaucoup d'étapes dans la vie.
Capucine, suite à tout ça, vous vous êtes réorientée professionnellement. Vous êtes aujourd'hui réflexologue. Vous n'accompagnez pas seulement des femmes en parcours PMA, mais c'est une partie importante de votre activité. C'est aussi ça qui a déclenché ce désir d'ailleurs de votre côté. Qu'est-ce que la réflexologie peut apporter dans ce qui est vécu ?
Effectivement, comme vous le disiez, c'est un parcours qui est très médical, où on a peu de temps à nous accorder au niveau de l'écoute, je dirais. Pour autant, je remercie encore vivement, et j'en profite, mais la gynécologue et toute l'équipe qui nous a suivis, parce que même si c'était très timé, on lui est extrêmement reconnaissante de tout ce qu'elle a fait, parce que sans ça, voilà, je pense qu'on y sera encore. Donc, mais néanmoins, il y a un manque de temps qui nous est accordé et on repart beaucoup avec nos larmes. Hein. Enfin, moi, j'étais pour ma part suivie à Rennes et les retours, j'ai pleuré. Les Rennes-Laval où j'ai pleuré, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai accouché à Rennes, donc j'ai aussi pleuré de joie sur le retour. Effectivement, on cherche à trouver aussi des moments pour soi. Et moi, je m'étais tournée vers les médecines douces pour ça, pour m'aider à lâcher prise, à prendre un moment pour moi où on n'est pas dans le médical. Et c'est pour ça que je me suis orientée donc, vers la réflexologie, qui peut accompagner dans tout ce qui est soulager le stress, les tensions, aider au lâcher prise et puis travailler également sur le système hormonal.
Et alors la réflexologie, concrètement, qu'est-ce que c'est ?
La réflexologie, en fait, on vient stimuler des zones réflexes pour ma part, sur les pieds ou les mains, mais principalement sur le pied, qui correspondent à des glandes ou des organes bien, bien, bien précis. Et donc, on va venir stimuler avec le pouce principalement. Et de ce fait, en fait, on va travailler les zones en conséquence par rapport à ce que la personne souhaite soulager au niveau de ses troubles.
L'importance de couper avec ça, prendre du temps pour soi. Peut-être quand la vie s'adapte presque totalement finalement à cet objectif de tomber enceinte. Et quelque chose qui m'a également interpellée, parce que depuis tout à l'heure, on insiste sur l'aspect très intime du parcours. Mais Noura, vous avez été confrontée à quelque chose. Et je vais vous demander, Capucine, si ça a été également votre cas. Mais vous avez dû informer le directeur du lycée dans lequel vous travaillez, du parcours PMA que vous commenciez pour pouvoir vous rendre aux différents rendez-vous médicaux. Donc en fait, il n'y a pas du tout de discrétion médicale ou de secret médical.
Bah oui. on est obligé de, bah pour justifier nos absences, vu que c'est un texte particulier, on est obligé de le dire pour pouvoir s'absenter
régulièrement
pour les très nombreux rendez-vous. Mmh. Et en plus aussi, ça éveille un peu la curiosité des collègues, puisqu'on ne s'absente que des heures, quelques matinées. Donc en fait, ils ne se disent pas qu'on est malade, ils se disent qu'on est à un rendez-vous, c'est sûr. Mmh. Alors certains ont la délicatesse de ne pas demander, et d'autres, t'étais où? T'avais la grippe? T'es parti que ce matin? Et en fait,
c'est difficile
parce que nos collègues, on les connaît sans les connaître. Bon, certains sont nos amis, mais d'autres pas du tout. Et c'est un peu compliqué. Et d'en parler à notre secrétaire de direction, à notre proviseur qu'on ne connaît absolument pas, avant même d'en avoir parlé à certains de nos proches, c'est un peu difficile.
Oui, c'est le genre de sujet qu'on n'imagine pas forcément avoir amené sur notre lieu de travail. Vous, Capucine, vous avez rencontré ça aussi?
Bah, effectivement, je l'ai. Alors moi, j'avais un poste où j'étais amenée à me déplacer aussi. J'avais des rendez-vous extérieurs, donc vis-à-vis de mes collègues, ça ne s'est pas forcément ressenti. Mais auprès de ma direction, il y avait quand même des matins d'absence, puisque, comme je disais, j'étais suivie à Rennes, donc il fallait partir très tôt, revenir, mais sans maîtriser le temps d'attente parfois, qui pouvait être de 1 heure ou plus. Donc on n'était pas toujours dans les clous, et donc j'ai fini par lui dire que j'étais suivie... à Rennes pour ça, donc il a été très discret et très compréhensif, et ça, pareil, j'en ai été très reconnaissant, parce que ça enlève quand même une sacrée charge. Je me souviens que j'avais lu des articles de femmes qui disaient avoir arrêté de travailler pour se consacrer à ce projet, et je trouvais ça, enfin, c'est terrible en fait. Mmh. Ça me donne envie de pleurer en lisant leurs témoignages, parce que je me disais, c'est tu choisis ton camp, quoi, et moi j'ai pas eu à se faire ce choix-là déjà, donc c'est vrai que c'est mais c'est contraignant, c'est très contraignant.
Oui, c'est sûr. Puis même la semaine où j'ai eu la ponction, on s'absente quelques jours après. Et là, j'ai dû dire que j'avais eu la grippe. En fait, j'ai dû mentir parce que j'avais pas envie de raconter ça. Sauf que les collègues demandent des nouvelles et j'ai dit que j'avais la grippe. Aujourd'hui, ils savent que ce n'était pas la grippe. Mais sur le coup, on n'a pas envie, quoi.
C'est... de tout livrer, quoi.
Je vous propose que l'on continue cet échange dans quelques instants ensemble. On fait maintenant une petite pause musicale. On écoute « Nous contre le monde » de Orelsan.
Ta mère a peur de la fin du monde, donc je voulais t'appeler Coco. On a des chances si tu lui ressembles un peu. Elle dit qu'on est foutu, que la mer monte. J'en sais rien, mais dans le doute, si tu savais bien nager, ça serait mieux. Si tu deviens genre meilleur que nous, on peut peut-être s'en sortir. Désolé si je mets tout l'avenir entre tes mains. Si tu pouvais même être heureux, nous montrer que c'est possible, ça nous aiderait de savoir qu'on se débat pas pour rien. Nous contre le monde, nous contre la fin du monde, nous contre le monde quand tout s'effondre, on luttera. Ça va aller, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Ça fait quelques années qu'on attend, t'es sûrement perdu en route, ou juste t'as pas envie d'entrer dans le jeu. J'ai déjà mis des jouets dans ta chambre, quelques films de kaiju. Je vois ton visage chaque fois que je dois faire un vœu. Tous les mois la défaite, quand on comprend que tu vas pas venir. On se connaît pas encore, mais tu nous manques déjà. Si t'as peur ou si t'as la flemme de commencer à vivre, dis-toi qu'on forme un mec à toi, ta mère et moi. Nous contre le monde, nous contre la fin du monde, nous contre le monde. s'effondre en le tra, mon enfant.
On est de retour dans l'Agité du local en studio avec moi aujourd'hui, Noura Deliot, autrice de l'ouvrage « Des paillettes dans l'éprouvette » et Capucine Loutelier, réflexologue. Vous accompagnez notamment des femmes en parcours PMA, après l'avoir vous-même suivie. Dans cette première partie d'émission, on est revenu sur différentes choses que comporte le parcours PMA à travers vos expériences, Noura et Capucine. Et une chose sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, c'est ce moment où vous commencez les examens de fertilité et finalement, avant de s'intéresser à votre conjoint, s'adresse à vous. Les premiers tests sont sur vous. En quelque sorte, cette focalisation, ça vous amène à ressentir une certaine responsabilité dans cette difficulté à avoir un enfant. C'est bien ça ?
Oui, en fait, c'est extrêmement isolant. Alors déjà, on se sent isolé en tant que couple parce qu'on est dans la difficulté. Et moi, je me suis sentie en tant que femme dans le couple, isolée aussi, dans le sens où j'avais un énorme sentiment de culpabilité de ne pas réussir à tomber enceinte. Et cette impression que c'était mon corps qui était défaillant et que j'étais la seule qui pourrait nous sortir de cette situation, quoi. Et ça a duré très très longtemps jusqu'à ce qu'on ait des résultats concrets en termes de, c'est horrible à dire, mais en termes de productivité. pendant tout le processus avant, je me sentais coupable.
C'est quelque chose que vous avez ressenti vous aussi, Capucine ?
Moi, non, j'ai pas eu la culpabilité, en tout cas au départ. Par contre, au fur et à mesure qu'on avançait et que ça ne fonctionnait pas, et que, entre guillemets, le problème venait de moi, je dis toujours ça, ce que je me faisais reprendre par mon mari quand je disais ça, mais le problème était effectivement plus de mon côté, et donc j'avais quand même ce sentiment de culpabilité. Malgré moi, et il me rassurait là-dessus, mais on l'a quand même, quoi, parce que on se dit lui aussi il est dans l'attente en fait, et il est en souffrance, et ça fonctionne pas, quoi. Donc il y a quand même un moment où on se dit tout, une grosse partie repose sur moi, et est-ce que ça va marcher ? C'est surtout ça, ce que disait Noura, c'est l'incertitude qu'on a dans ce parcours-là qui est très difficile parce qu'on contrôle beaucoup de choses aujourd'hui, et ça on n'a pas le contrôle, et c'est hyper difficile de dire mais est-ce qu'un jour ça fonctionnera et comment je peux faire pour que ça marche ? En fait, on peut rien faire, juste attendre ou en tout cas faire au mieux, quoi.
Ouais. Puis comme j'en plaisante dans le livre, on serait prête à tout pour avoir un espoir, pour avoir le moins d'injections possible. Et en fait, on essaie parfois on s'y perd un peu, mais on essaie de trouver toutes les solutions qui pourraient améliorer notre fertilité. Et qui pourrait nous permettre de tomber enceinte. Et c'est aussi ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on se met une énorme pression parce qu'on a envie de tout bien faire. On révolutionne un peu. Moi, je sais que j'ai révolutionné ma façon de consommer, ma façon de faire de l'exercice, ou non, d'ailleurs. Voilà, on met beaucoup de choses en place en espérant que ça aboutisse. Et c'est un travail énorme, en fait, parce qu'on fait des sacrifices, on est obligé de s'informer.
C'est un changement de vie que vous décrivez. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avant de connaître vos deux fins heureuses dans vos parcours, c'est que lorsque vous démarrez ce protocole, vous n'avez en fait aucune idée de si ça va aboutir, ni en combien de temps, puisque parfois ça peut en fait prendre vraiment des années. Noura, vous me dites si je me trompe, mais par exemple, vous, il y a eu environ 6 mois, je crois, avant un résultat positif.
Entre notre premier rendez-vous et la grossesse, il s'est passé moins d'un an. Donc, ce qui est plutôt court.
Vous, ça a été un peu plus long, Capucine. Donc, il y a l'attente, le doute, c'est forcément quelque chose...
Faut tenir. Faut effectivement tenir dans la durée, faire des pauses aussi, s'octroyer des pauses, quoi, parce qu'il y a des moments où on a besoin de se retrouver soi-même et puis de se retrouver en couple, au niveau du couple, parce que comme on le disait, c'est... Ça devient vite... on n'a plus le contrôle, il n'y a plus de place au naturel, et donc ça devient... Il n'y a plus de spontanéité. Et donc, il y a un risque qu'on s'épuise aussi. Donc, on a besoin de se ressourcer, se retrouver dans ce parcours-là, quoi.
C'est aussi l'idée de continuer de vivre et de continuer de créer des projets, tout en ne sachant pas si un jour... une grossesse va venir perturber. En fait, on est obligé de continuer d'avancer tout en sachant qu'on est dans un processus dans lequel on attend que quelque chose se passe. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué et c'est pour ça aussi que ça peut peser parfois au sein du couple. C'est qu'en fait, on est obligé de continuer de faire comme si tout en voulant quelque chose. Donc c'est très paradoxal en fait. On, Et j'avais l'impression aussi de perdre un peu de spontanéité, c'est-à-dire de faire des projets parce qu'il fallait qu'on ait l'impression de continuer d'avancer, mais tout en restant bloqué. Donc c'est très...
Un accompagnement psychologique aussi peut soutenir très certainement.
Moi, je l'ai été avant le protocole et pendant. Parce que oui, c'est porter tout ça, c'est un peu compliqué.
Alors moi, je l'ai fait parce qu'on me disait, mais ce serait peut-être bien de voir quelqu'un. Et je trouve que justement, moi, ça m'a rajouté encore de la culpabilité quand on m'a dit ça. Je me suis dit, mais en plus, on me demande d'aller voir un psy, quoi. Donc je l'ai fait parce que je me suis dit, je suis prête à tout. Et vis-à-vis de mon mari, je vais le faire aussi parce que j'ai peut-être un souci finalement. Donc je suis allée voir quelqu'un et ça m'a aidée, mais je ne l'ai pas fait sur toute la durée du parcours. Mais en tout cas, je l'ai tenté et je pense que ça peut répondre aux besoins de certaines personnes.
Alors le parcours PMA n'est pas qu'un parcours de stress et d'angoisse, ce n'est pas ce qu'on dit là, mais c'est une succession d'émotions, parfois positives, parfois plus compliquées. C'est aussi ça qui est important de dire, et que dans ce contexte, le temps où on s'occupe de soi est essentiel en fait.
Il y a des personnes qui vont vouloir parler, d'autres qui vont vouloir se faire du bien, comme dans les médecines douces, mais sans avoir à se livrer. Il y a, je pense, des moments où on en a besoin, d'autres où on a besoin juste de se reposer, prendre du temps pour soi et ne parler à personne et se faire chouchouter, quoi.
Alors, j'ai cherché s'il existait des lieux, des groupes de parole localement pour avoir justement ces temps d'échange qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé ce genre d'espace?
Alors, on ne connaît pas, moi j'en connais pas spécialement, mais on s'est dit justement avec Capucine qu'il y avait quelque chose à faire, puisque depuis que j'ai écrit le livre et que Capucine est en exercice, on a plusieurs femmes, on se rend compte en fait que plusieurs femmes sont dans le parcours et qu'elles ont extrêmement besoin de parler en fait. Et on s'est dit que peut-être dans les semaines, mois à venir, on essaierait... de notre côté, d'organiser des choses, pourquoi pas pour libérer la parole avec des anciennes PMettes, comme on les appelle, et des femmes qui sont encore en parcours, pour échanger.
De manière, que ce soit un moment convivial, on puisse, comme tu le disais, partager et tout de suite comprendre ce que vit la personne. Effectivement, ce serait une super dynamique et quelque chose qui peut faire du bien. On se rend compte en fait qu'on se croit très seul dans ce parcours-là. Et quand on est dans ce parcours, on nous demande de participer à une réunion d'information sur le fonctionnement de la FIV, etc. Et moi, je me souviens, j'avais été frappée du nombre de personnes. On ne pouvait pas s'asseoir dans la pièce. Et j'avais dit à mon mari, mais regarde le nombre de personnes dans la même situation que nous. En fait, on n'est pas... isolé, quoi.
Même quand on va au rendez-vous...
Dans la salle d'attente. Oui,
dans la salle d'attente, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Il y a vraiment beaucoup de monde, quoi.
Il est bon de se pencher sur les chemins, les expériences, les parcours qui ne sont pas seulement les nôtres. Et j'ai appris beaucoup de choses avec ce livre des paillettes dans l'éprouvette. En fait, je trouve qu'on sort de cette lecture sans poids. C'est agréable à lire. On en sort avec un certain élan. Il est disponible à la commande, mais aussi directement en librairie, M-Lire à Laval et la FNAC. Capucine, merci d'avoir été également avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre expérience personnelle, mais aussi le soutien que peut avoir la réflexologie que vous pratiquez aujourd'hui. On peut indiquer peut-être où est-ce que l'on peut vous retrouver.
Effectivement, j'ai une page Instagram, une page Facebook sous le nom de Capucine Réflexo. Et mon cabinet est situé avenue Pierre de Coubertin, 192 avenue Pierre de Coubertin, à Laval.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, on arrive fin décembre et nous voilà au moment de notre agenda culturel. Vous vous doutez bien que la période sera un peu plus calme dans les salles de spectacle. Je vous rappelle que nous avons reçu lundi Véronique Lecomte, coprésidente de l'association Poc Poc, qui est revenue avec nous sur l'histoire du Festival des Trois Éléphants et sur le film documentaire réalisé par Étienne Blanchard, Les Trois Éléphants, portrait d'un festival associatif qui nous permet de nous faufiler un peu dans les coulisses de ce festival. Il sera projeté au cinéma L'Avant-Scène à Laval ce samedi 23 décembre à 18h. Si vous voulez, vous pouvez réécouter notre émission. Elle est évidemment disponible en podcast sur notre site internet. On va maintenant à Château-Gontier, au Théâtre des Ursulines, parce que ce soir à 20h30, elle danse. Je vous parle d'une jeune artiste d'une remarquable maturité scénique. Elle navigue librement entre danse contemporaine et
et théâtralité pour tenter d'illustrer la complexité et la difficulté d'être. Ces chorégraphies créent en nous un réel enthousiasme et offrent des moments d'une rare intensité. Je vous parle là de Leïla K. Si vous n'avez rien prévu ce soir, il est bien sûr encore temps de prendre vos places. Et alors je termine cet agenda pour vous conseiller de nous suivre sur les réseaux sociaux parce que très régulièrement sur Facebook et Instagram, on vous fait gagner vos places pour assister à des spectacles dans ces très belles salles qui proposent une programmation exceptionnelle sur notre territoire. Et vous verrez que pour participer, c'est vraiment particulièrement très très simple. Eh bien, nous voilà à la fin de cette émission. Les bonnes ondes, les belles histoires, les bons programmes continuent évidemment. Ce soir, à 19h, on écoute Dance Hall Social Club. On le sait, elle fait plaisir, cette émission, le vendredi, parce qu'on peut se replonger dans les titres du passé, mais qui nous font encore quelque chose, qui nous ramène un petit peu en arrière. Ça sera suivi à 20h de Tempus Fugit, bien sûr avec Fred et Plom. Ils n'aiment pas les mêmes choses, mais quand ils parlent, musique, ça les rassemble et ils nous embarquent avec eux dans des anecdotes, des actualités et pas que, il faut les écouter. Et avant de vous quitter, j'ai envie de jeter un coup d'œil sur la programmation du week-end. Par exemple, samedi à 10h, Instant Europe revient, une émission en partenariat avec la Maison de l'Europe en Mayenne qui s'intéresse à la question de la crise ukrainienne et de l'élargissement de l'Union européenne. Toujours samedi à 13h, Rock Dreams se penche sur le groupe de rock alternatif originaire d'Irlande qui s'est formé en 1989. Je vous parle là de The Cranberries. Et dimanche, vous aurez le plaisir d'écouter Anachronique, H1000 et Métaclassique avant d'entamer votre réveillon de Noël ou avant de passer une bonne soirée sans le fêter. La JT du local prend des vacances la semaine prochaine, chers auditeurs. On se retrouve pour une nouvelle émission le 2 janvier. À la même heure, le rendez-vous ne change pas. Je vous souhaite un bon week-end, de bons moments au coin du feu ou sous le plaid. Bon courage à ceux qui travaillent, bien sûr. Prenez soin de vous, il ne faut jamais cesser de le faire. On se retrouve bientôt et d'ici là, je n'abandonne pas ma recommandation. Vous vous en doutez bien, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.